Vous êtes avec SBS French.
Les grands titres de ce mardi 5 mai. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern participe à la réunion du cabinet national de l'Australie. Un effort mondial d'annonce de contributions vise à collecter 12,7 milliards de dollars pour un vaccin et des traitements contre le Covid-19. Les joueurs de foot espagnols autorisés à reprendre l'entraînement individuel et non pas collectif depuis hier. Les dirigeants australiens réfléchissent à la réouverture de la frontière avec la Nouvelle-Zélande et à l'assouplissement à court terme des restrictions sociales et économiques liées au Covid-19. C'est ce qui a été discuté lors de la réunion du cabinet national ce mardi 5 mai. La première ministre néo-zélandaise a rejoint les dirigeants fédéraux des États et territoires de l'Australie par liaison vidéo. Les vols aérien ne devrait pas recommencer dans les semaines à venir, mais Jacinda Ardern a présenté le concept d'une Trans-Tasman Bubble dans le but de relancer les économies des deux pays. À l'issue de la réunion, Mme Ardern affirme que la sécurité est une priorité lorsqu'il s'agit de toute décision de reprendre les voyages en avion entre les deux pays.
This is not to get ahead of a decision. There are obviously within Australia still restrictions around domestic travel, and those are ultimately issues for Australia. I think simply the position that I would take on behalf of New Zealand is that when we feel comfortable and confident that we both won't receive cases from Australia, but equally that we won't export them, then that will be the time to move.
Les chiffres du Trésor révèlent que le lockdown du Covid-19 coûte à l'économie australienne 4 milliards de dollars supplémentaires par semaine. Le Trésor fédéral a déclaré que l'économie australienne devrait perdre quelque 50 milliards de dollars au cours du trimestre de juin et que les choses devraient empirer si les restrictions du Covid-19 restent en place. Le porte-parole des finances de l'opposition fédérale, Jim Chalmers, a déclaré sur l'ABC que le gouvernement fédéral aurait dû agir plus rapidement.
I think there has been a lack of urgency in getting this support into the economy. Certainly the feedback that we receive from the community, including the business community, is that the implementation of the wage subsidies, for example, has been too slow. It hasn't been communicated clearly enough, and there are too many gaps in the program, which means that all of these workers which are being excluded from JobKeeper by the Treasurer means that the unemployment queues will be even longer than they need to be.
La chef de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, exhorte les gens qui présentent des symptômes de Covid-19 à se faire tester alors qu'il commence à faire plus froid en automne. Selon elle, toute personne présentant de légers symptômes de rhume ou de la grippe devrait se présenter pour le test.
The numbers are still continuing to be just a handful, which is a positive sign. But as we're lifting restrictions in May and as we look forward to lifting further restrictions beyond the ones that we've announced, we need to make sure there are more people getting tested so that we can control the virus, control the spread, and ensure that the vast majority of the community stay well away from this virus.
Le trésorier du Victoria, Tim Pallas, a annoncé un allègement fiscal de 491 millions de dollars pour les entreprises. Le Victoria agit pour être compatible avec le programme JobKeeper du gouvernement fédéral, selon lui.
Of the businesses participating in that program, they will be exempt from payroll tax and the work cover levy on JobKeeper payments to their employees who aren't working.
17 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés dans l'État, ce qui porte son total à plus de 1400. 11 des nouveaux cas sont connectés à l'abattoir Cedar Meats dans la banlieue de Brooklyn, à l'ouest de Melbourne. Un comité sénatorial interroge le responsable du ministère des Affaires intérieures sur l'incident de la croisière Ruby Princess. Le responsable du département, Michael Pezzullo, et les responsables des forces frontalières sont interrogés sur l'amarrage du bateau de croisière en Nouvelle-Galles du Sud qui a fait plus de 20 morts à cause du Covid-19. Le débarquement des 2700 passagers de navires de croisière fait également l'objet d'une enquête policière de la Nouvelle-Galles du Sud et d'une commission d'enquête spéciale indépendante. Les États-Unis continuent de mettre la pression sur la Chine. Je rappelle que dimanche, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a accusé Pékin et affirme détenir des preuves que le virus est parti du laboratoire de Wuhan en Chine. Et la Chine a riposté. Explication de Vincent Souriot pour Radio France Internationale.
Chacun comprend, affirme la télévision chinoise, que la diplomatie américaine n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Ses remarques biaisées et insensées montrent une fois de plus que Washington tente de faire diversion, de rejeter la faute sur la Chine pour faire oublier sa gestion catastrophique de l'épidémie aux États-Unis. À travers les médias officiels, le Parti communiste chinois montre les muscles, car le régime ne veut rien lâcher. Il a fait de cette pandémie une affaire d'État, car d'après un rapport interne rédigé par le ministère de la Sécurité d'État, la Chine s'attend à une très forte hostilité de la communauté internationale à l'issue de la crise. Hostilité d'un niveau comparable à la fin des années 1980 après la répression de Tiananmen. Et Pékin s'inquiète des conséquences de cette défiance, revers diplomatique, chute des investissements. Les analystes chinois vont jusqu'à évoquer le scénario du pire, que les tensions existantes entre la Chine et les États-Unis se transforment en confrontation armée entre les deux pays.
Sur ce même dossier que le Covid-19 est parti d'un laboratoire de Wuhan, Michael Ryan, directeur du programme des urgences sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé, affirme que sans preuve, l'allégation est sans fondement.
From our perspective, this remains speculative, but any like any evidence-based organization, we would be very willing to receive any information that purports to the origin of the virus, because as Maria said, the origin of the virus is a very important piece of public health information for future control. So if that data and evidence is available, then it will be for the United States government to decide whether and when it can be shared. But it's difficult for WHO to operate in an information vacuum in that specific regard.
Aux États-Unis, avec le déconfinement dans certains États du pays et les gouverneurs républicains qui lèvent les mesures plus rapidement. Précision de Anne Corpé pour RFI.
Les Américains ont une perception de l'épidémie qui varie en fonction de leur appartenance politique. 64% des démocrates estiment que le pire est à venir, contre 27% des républicains. Cela a un impact sur leur comportement et donc sur la progression de la maladie. Selon les données de l'université Johns Hopkins, au cours des deux dernières semaines, les infections ont augmenté de 91% dans les États républicains, contre 63% dans ceux tenus par les démocrates. Le nombre de décès a aussi grimpé de 170% dans les États républicains contre 104% chez les démocrates. La tendance devrait se poursuivre. La population des États ruraux du centre et du sud du pays, plus âgée que celle des villes côtières et potentiellement plus à risque, et les gouverneurs des États républicains lèvent plus rapidement les mesures de confinement. Le gouverneur du Missouri autorise par exemple les concerts à reprendre à partir d'aujourd'hui, même si la ville de Saint-Louis a enregistré ce dimanche le plus grand nombre d'infections depuis le début de l'épidémie.
En Italie, à Milan, le déconfinement a commencé et la vie économique reprend tout doucement, comme l'explique Pauline Glaise pour RFI.
Milan s'est réveillé doucement, la ville est encore loin de son effervescence habituelle. Les restaurants et bars qui proposent désormais leurs plats ou cafés à emporter sont restés dans la matinée, du moins largement déserts. Les clients qui passent commande doivent rester la plupart du temps devant la porte et ils sont rares. Il faut dire que le télétravail est toujours de mise, les magasins de détail sont toujours fermés. Avec la quasi-totalité des rideaux de fer baissés et des vitrines éteintes, le centre-ville est toujours endormi. Même le hall de la gare centrale restait calme alors que les retours dans les résidences principales sont de nouveau autorisés. autorisés. Mais les parcs fermés jusqu'à hier se sont animés. Sous un beau ciel bleu, les Italiens sont sortis pour courir, aérer les jeunes enfants ou prendre le soleil. Un petit plaisir non négligeable pour des Milanais qui ne pouvaient pas prendre l'air à plus de 200 mètres de chez eux. Sur le parvis du Dôme, la cathédrale monumentale de la capitale lombarde, pas de touristes, pas de vendeurs de gadgets non plus, mais le monument a de nouveau été la star de selfie. Même les Milanais aiment le prendre en photo, surtout après 2 mois de confinement.
Le Téléthon mondial pour lutter contre le Covid-19 a levé 12,7 milliards de dollars. Précision, Pierre Benazé, RFI.
Avec cette somme de 7 milliards d'euros plus 400 millions de garanties de prêts avancées par la Commission européenne, la France et l'Allemagne, l'objectif de cette visioconférence des donateurs est presque atteint, à 100 millions d'euros près. C'est le premier pas vers la solidarité mondiale, souligne le président français Emmanuel Macron.
Au cœur de cette initiative, il y a la décision que ce vaccin, le jour où il sera mis au point, sera un bien public mondial. Pour garantir un accès sûr, équitable et universel à ces moyens vitaux de lutte contre la pandémie, nous avons besoin de l'Organisation mondiale de la santé pour faire face à l'urgence.
Une référence à l'Organisation mondiale de la santé qui n'est pas anodine, puisque cette visioconférence des donateurs avait été annoncée au lendemain du retrait du financement américain à l'OMS. Et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, n'est pas en reste.
Pour soutenir les travaux de l'OMS sur les traitements et pour aider les pays en développement à s'adapter, nous devons être solidaires les uns des autres. C'est comme ça qu'on va passer à travers. Et je sais, on va passer à travers ensemble.
Sur l'ensemble des sommes promises, la moitié vient de l'UE, mais pour le secrétaire général de l'ONU, il faudra aller plus loin. Selon lui, plus de 20 milliards d'euros seront nécessaires pour développer et distribuer un vaccin.
Sport, saut à la perche. Renaud Lavillenie, le français, et Armand Duplantis, le suédois, ont terminé premier ex aequo dimanche, chacun chez lui aux États-Unis ou en France, de cette Ultimate Garden Clash. L'Américain Sam Kendricks s'est classé 3e. Ils avaient fixé un objectif de franchir le maximum de barres à 5 mètres de hauteur en 30 minutes. Et puis, les joueurs de foot espagnols autorisés à reprendre l'entraînement individuel et non pas collectif depuis hier, lundi. Précision de Pierre Chaperon pour RFI.
Entraînement individuel, port de gants, contrôle de la température et distanciation sociale obligatoire, c'est un retour sous condition dans un pays où le football est roi. Jugé selon les autorités espagnoles, à l'instar d'autres sports, comme une activité essentielle, ce déconfinement sportif est vu comme une délivrance. De là à entrevoir un retour du championnat, la balle est désormais dans le camp de la fédération et de la ligue, selon les déclarations du président du gouvernement Pedro Sánchez. Un pas de plus quand les deux entités, pourtant opposées sur bien de sujets, mais qui se sont alliées pour reprendre, s'en remettaient le mois dernier aux décisions du ministère de la Santé. La route est quand même encore longue et le protocole sera progressif pour un retour à une nouvelle normalité. Ainsi, le championnat ne devrait pas revenir avant la mi-juin et devrait, quoi qu'il en soit, se dérouler sans spectateurs dans les stades.
Le chanteur Idir, l'un des principaux ambassadeurs de la chanson kabyle à travers le monde, est mort samedi dernier à l'âge de 70 ans. Écoutez l'hommage de Maxime Le Forestier sur RFI.
C'est une maison bleue.
Quand on faisait des duos avec Idir, on en a fait deux. On a fait le premier, c'était San Francisco, que Brahim Isri avait traduit et ça s'appelait Tizi Ouzou. Pour son disque Identité, Idir m'avait demandé de venir chanter en duo. Et j'avais dit, je suis d'accord, à une condition, c'est que ce soit toi qui chante en français et moi qui chante en kabyle. Ça a été pour moi extrêmement difficile, parce que le kabyle est une langue très difficile à prononcer. Il y a trois sortes de F, enfin c'est très compliqué.
Des enfants sous de rêve.
Et puis après, pour son dernier album, il m'a demandé de faire la même chose avec Mes Quelque Part. Non, c'était un homme exquis, une sorte de prince, parce qu'il régnait quand même sur la chanson kabyle, sans partage quasiment. Non, c'était un grand mec.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie, à Perth. Il fera 22 degrés, Adélaïde maximale de 20 degrés, Melbourne 18, Hobart 17, Canberra 17, Sydney 21, Brisbane 25, Cairns 28, Darwin 34 et à Alice Springs maximale de 25 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 5 mai, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern participe à la réunion du cabinet national de l'Australie. Un effort mondial d'annonce de contribution vise à collecter 12,7 milliards de dollars pour un vaccin et des traitements contre le Covid-19. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.